Chapitre 33, le testament. « Mais il y avait, reprit le mendiant, un pot de fer, un vieux pot de fer bien laid, qui avait l'air de rien du tout, mais il faut pas juger sur la mine. Dans ce pot bien scellé et lourd, oh qu'il était lourd, il y avait 50 000 francs appartenant au vieux seigneur de Blanchemont, dont la petite fille est maintenant à la ferme de Bricolin. » Et de plus, le vieux père Bricolin, qui était un jeune homme dans ce temps-là, oh, il y a de ça, 40 ans. Juste, il avait fourré dans ce pot 50 000 francs à lui, provenant d'une bonne affaire, qu'il avait faite sur les laines. C'était le temps, à cause de la fourniture des armées, le dépôt du seigneur et les profits du fermier, tout ça était en beau et bon louis d'or de 24 francs, à l'effigie du bon roi Louis XVI. De ceux que nous appelons des yeux de crapaud à cause de l'écusson qu'elle rompt. J'ai toujours aimé cette monnaie-là, moi. On dit que ça perd au change, mais moi je dis que ça gagne. 23 francs en sous valent toujours mieux qu'un méchant Napoléon de 20 francs. Tout ça a été pêle-mêle, seulement comme le fermier aimait ses louis pour eux-mêmes. C'est comme ça, enfant, qu'on doit aimer son argent. Il avait marqué tous les siens d'une croix pour les distinguer de ceux de son seigneur, quand il faudrait les lui rendre. Il fit cela à l'exemple de son maître qui avait marqué les siens d'une simple barre pour s'amuser à ce qu'on dit et voir si on ne les lui changerait pas. La marque y était, y est encore, il n'en manque pas, hein. Au contraire, il y en a d'autres avec. Quel « diable nous chante-t-il là ?» dit le meunier en regardant le notaire. « Paix !» répondit celui-ci. « Laissez-le dire, il me semble que je commence à comprendre. Si bien que, dit-il au mendiant, si bien que, reprit Caloche. Il avait mis le pot de fer dans un trou de la muraille au château de Beaufort et il avait fait maçonner par-dessus. Quand les chauffeurs se furent mis après lui... Oh, il faut pas croire que ces gens-là fussent tous de la canaille. Il y avait des pauvres, mais il y avait aussi des riches. Je les connais très bien, pardier. Il y en a qui vivent encore et qu'on salue bien bas. Il y avait parmi nous... Parmi vous ? S'écria le meunier. Mais taisez-vous donc, dit le notaire en lui pressant le bras avec force. Je veux dire qu'il y avait parmi eux, reprit le mendiant, un avoué, un maire. Un curé, un meunier, il y avait peut-être aussi un notaire. Eh, monsieur Taillant, je dis pas ça pour vous, vous étiez à peine de ce monde, ni pour toi, mon neveu, t'aurais été trop simple pour faire un coup pareil. Enfin, les chauffeurs prirent l'argent, dit le notaire. Non, ils le prirent pas, voilà ce qu'il y a eu de plus drôle. Il faisait griller et rissoler les pattes de ce pauvre dindon de Bricolin. C'était affreux, c'était superbe à voir. Mais vous l'avez donc vu ? Dit le meunier qui ne pouvait se contenir. Oh non, Bricolin, je ne l'ai pas vu, mais un de mes amis, c'est-à-dire un homme qui s'y trouvait, m'a raconté tout ça. Ah, le bonheur, dit le meunier tranquillisé. « Prenez donc votre tasse de thé, père Caloche, » dit la meunière, « et ne bavardez pas tant, ça vous fera du mal. »« Allez au diable, meunière, avec votre eau chaude, » répondit le mendiant en repoussant la tasse. « J'ai horreur de ces rinsures-là. Laissez-moi donc raconter mon histoire. Il y a assez longtemps que je l'ai sur le cœur. Je vais la lire une fois tout entière avant de mourir, et on m'interrompt toujours. » « C'est vrai, dit le notaire, ce matin vous vouliez la dire sous la ramée, et tout le monde a tourné le dos en disant « Ah, voilà l'histoire des chauffeurs du père Caloche qui commence, allons-nous-en. » Mais moi ça m'amusait, et j'aurais volontiers entendu le reste. Continuez donc. « Figurez-vous, dit Caloche, que cet homme dont je vous parle et qui se trouvait là, un peu malgré lui, c'était un pauvre paysan, on l'avait entraîné, et puis quand la peur l'a pris, et qu'il fit mine de reculer, on le menaça de lui faire sauter la cervelle s'il remontait sur le cheval qu'on lui avait amené et qui était ferré à rebours, comme ceux des autres, afin qu'en se retirant, on laissât par terre une trace qui dérouterait les poursuites. Et quand mon homme fut là, et qui vit qu'il fallait faire comme les autres, il se mit à fouiller et à fureter partout pour trouver l'argent. Il aimait mieux ça que d'aider à faire rôtir ce pauvre bricolin, car c'était pas un méchant homme que le camarade dont je vous parle. Ouais, oh, cette besogne-là lui plaisait pas, il faisait horreur à voir. C'était vilain, ce patient qui hurlait à déchirer les oreilles. Cette femme évanouie, ces maudites jambes qui se débattaient dans le feu et que je crois toujours voir. Il n'y a pas une nuit depuis que j'en ai rêvé. Bricolin était dans ce temps-là un homme très fort. Il se raidissait si bien qu'une barre de fer qui était au milieu du feu fut tordue par ses pieds. Oh, j'en suis pas mêlé, j'en jure devant Dieu. Et quand ils m'ont forcé à lui tenir une serviette sur la bouche, la sueur m'écoulait du front, froide comme du verglas. À vous ? Dit le meunier stupéfait. Non, à l'homme qui m'a raconté tout ça. Alors notre homme, il a pris un bon moment pour s'esquiver et il se mit à chercher, du haut en bas dans la maison, à frapper avec une pioche contre tous les murs pour voir si ça sonnait le creux, et démolissant à droite et à gauche comme les autres. Mais ne voilà-t-il pas qu'il se glisse dans une petite étable à porc, sous votre respect, et qu'il s'y trouve tout seul. C'est depuis ce temps-là que j'ai toujours aimé les cochons et que j'en ai élevé un tous les ans. Il frappe, il écoute, ça sonne encore le creux, il regarde autour de lui. J'étais tout seul, il travaille son mur, il fouille, et il trouve, devinez quoi, le pot de fer. Nous savions bien que c'était la tirelire au père Bricolin. Le serrurier qu'il avait scellé avait bavardé dans les temps, et j'ai bien vite reconnu que c'était là le pot aux roses. C'était si lourd. C'est égal, mon homme trouva la force d'un bœuf dans ses bras et dans son cœur. Il sauva bel et bien avec son pot de fer et quitta le pays par pointe sans dire bonsoir aux autres. On l'a jamais revu depuis dans ce pays-là. C'est qu'il jouait gros jeu, d'abord. Les chauffeurs l'auraient assommé sans façon s'ils l'avaient découvert. Il marcha jour et nuit, sans s'arrêter, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'il fût dans un grand bois, où il enterra son pot, et il dormit là je ne sais combien d'heures. J'étais si fatigué de porter une pareille charge. Quand la faim me prit, oh, j'étais bien embarrassé, j'avais pas un sou vaillant. Et je savais que dans mes 100 000 francs, il n'y en avait pas un louis qui ne fût marqué. J'y avais regardé. J'avais pas pu m'en tenir. Je voyais bien que cette maudite marque ferait reconnaître l'argent désigné déjà à la police. L'effacer en grattant, ça aurait été pire. Et puis un pauvre diable comme celui dont je parle, qui aurait été changé à louis d'or pour avoir un morceau de pain chez un boulanger, sans réveiller les soupçons. Il n'avait qu'un parti à prendre, il se fit mendiant. Et la police ne se faisait pas si bien dans ce temps-là qu'aujourd'hui, à preuve que, sans quitter le pays, aucun chauffeur ne fut puni. Le métier de mendiant est bon quand on sait le faire. J'y ai ramassé quelque chose sans jamais me priver de rien. Mon âme ne fit pas la bêtise d'appeler un serrurier pour fermer son pot de fer. Il l'enterra tout au beau milieu d'une méchante cabane de paille et de terre qui lui sert de maison et qui s'est bâtie lui-même au fond des bois. Depuis 40 ans, personne ne l'a tourmenté parce que son sort n'a fait envie à personne. Et il a eu le plaisir d'être plus riche et plus fier que tous ceux qu'il méprisait. Et à quoi lui a servi son or ? Dit Henri. Il le regarde une fois par semaine, quand il retourne à sa cabane où il sert l'argent qu'il a recueilli de ses aumônes. Il ne garde sur lui que ce qu'il veut dépenser en tabac et en brandevin. Il fait dire de temps en temps une messe pour s'acquitter envers le bon Dieu du service qu'il en a reçu et avec beaucoup d'or et de sagesse, il se tire d'affaire. Il n'est pas si fou que de sortir une seule pièce de son trésor. Ça donnerait plus de soupçons maintenant que l'histoire est oubliée, les poursuites abandonnées, mais ça ferait penser qu'il est riche. On lui ferait plus la charité. Voilà, mes enfants, l'histoire du pot de fer. Comment la trouvez-vous ? Superbe, dit le notaire, et fort bon à savoir. Un profond silence succéda à ce récit. Les assistants se regardaient, partagés entre la surprise, l'effroi, le mépris, et une sorte d'envie de rire bizarre mêlée à toutes ces émotions. Cadoche, épuisé par son babil, s'était renversé sur l'oreiller. Sa face pâle prenait des teintes verdâtres, sa barbe longue, reine et encore assez noire pour assombrir son visage terreux, achevait de le rendre effrayant. Ses yeux creux, qui tout à l'heure lançaient des flammes, pendant que l'ivresse et le délire déliaient sa langue, semblaient rentrer dans leurs orbites et prendre l'éclat vitreux de la mort. Sa figure accentuée, son grand nez mince et aquilin, ses lèvres rentrantes, tous ses traits qui auraient pu être agréables dans sa jeunesse, n'annonçaient pas un naturel féroce, mais un mélange bizarre d'avarice, de ruse, de méfiance, de sensualité et même de bonhomie. Oh ça, dit enfin le meunier, est-ce un rêve qui vient de faire ou une confession que nous venons d'entendre? Est-ce le médecin ou le curé qu'il faut appeler? C'est la miséricorde de Dieu, dit les morts, qui observait plus attentivement que tous les autres l'altération de la face du mendiant et la gêne de sa respiration. Oh, où je me trompe fort, où cet homme a peu d'instants à vivre.
J'ai peu d'instants à vivre, dit le meunier en faisant un effort pour se relever. Qu'est-ce qui a dit ça? Est-ce le médecin? Je crois pas au médecin. Ils aillent tous au diable.
Il se pencha vers la ruelle et acheva sa bouteille. Puis, se retournant, il fut pris d'une atroce douleur et laissa échapper un cri.
Bon, j'ai le cœur enfoncé, dit-il,
luttant avec énergie contre son mal.
Il pourrait bien se faire que j'en revince pas. Et si j'avais pu pouvoir retourner à ma maison, oh, qu'est-ce que tout ça deviendrait? Et mon pauvre cochon, qu'est-ce qui en prendrait soin? Il est habitué à se nourrir du pain qu'on me donne et que je lui porte toutes les semaines. Bien, bien par là, une petite voisine qui le mène au champ. La coquette, elle me fait les yeux doux. Elle espère hériter de moi. Mais il n'en sera rien. Voilà, mon héritier.
Et Cadoche étendit la main vers Grand Louis d'un air solennel.
Il a toujours été meilleur pour moi que tous les autres. C'est le seul qui m'ait traité comme je le mérite, qui m'ait fait coucher dans un lit, qui m'ait donné du vin, du tabac, du brandevin et de la viande, au lieu de leur crouton de pain auquel j'ai jamais touché. J'ai toujours pratiqué une vertu, moi, la reconnaissance. J'ai toujours aimé le grand Louis et le bon Dieu parce qu'ils m'ont fait du bien. Or donc, je veux faire mon testament en sa faveur, comme je lui ai toujours promis. « Meunière, croyez-vous que je sois assez malade pour qu'il soit temps de tester ?»« Non, non, mon pauvre homme, » dit la meunière,
qui dans sa candeur angélique avait pris le récit du mendiant pour une sorte de rêve.
« Ne testez pas, on dit que ça porte malheur et que ça fait mourir. »
« Au contraire, » dit Monsieur Taillant, « ça fait du bien, ça soulage, ça ferait revenir un mort. »«
En ce cas, notaire, » dit le mendiant, je vais essayer de se remettre là. J'aime ce que je possède et j'ai besoin de savoir ce que ça passera en bonne main, et non pas dans celle des petites drôlesses qui me font la cour et qui ne rendent moi que le bouquet et le ruban de mon chapeau pour se faire belle le dimanche. Notaire, prenez votre plume et griffonnez-moi ça en bon terme et sans rien omettre. Je donne et lègue à mon ami, grand Louis d'Angibault, tout ce que je possède, ma maison située à Jeux-les-Bois, mon petit carré de pommes de terre, mon cochon, mon cheval. Oh, vous avez un cheval, dit le meunier, puis quand donc? Depuis hier soir, c'est un cheval que j'ai trouvé en me promenant. Mais ne serait-ce pas le mien, par hasard? Tu l'as dit, c'est la vieille Sophie qui vaut pas les fers qu'elle use. Ah, excusez-moi, mon oncle, dit le meunier, moitié content, moitié fâché. Je tiens à Sophie. Elle vaut mieux que bien des gens. Diable, vous n'êtes pas gêné de m'avoir volé, Sophie. Et moi qui vous aurais confié la clé de mon moulin. Voyez-vous ce vieux hypocrite? Taisez-vous, mon neveu, vous parlez sottement, reprit Caloche avec gravité. Il ferait beau voir qu'un oncle n'eût pas le droit de se servir de la jument de son neveu. Ce qui est à vous est à moi, puisque par mes intentions et mon testament, ce qui est à moi est à vous. À la bonne heure, répondit le meunier. Léguez-moi, Sophie. Léguez, mon oncle, j'accepte ça. Ah, il est tout de même heureux que vous n'ayez pas eu le temps de la vendre. Vieux coquin, murmura-t-il entre ses dents. Qu'est-ce que tu dis ? Répliqua le mendiant. Rien, mon oncle, rien, dit le meunier, qui s'aperçut que le vieillard avait une sorte de râle convulsif. Je dis que vous avez bien fait, si c'était votre plaisir de demander l'aumône à cheval. Avez-vous fini, notaire ? Reprit Caloche d'une voix éteinte. Vous écrivez bien lentement. Je me sens assoupi. Mais dépêchez-vous donc, paresseux tabellion. C'est fait, dit le notaire. Savez-vous signer ? Mieux que vous, répondit Caloche. Mais j'y vois pas. Faudrait mettre une lunette et une prise de tabac. Voilà, dit la meunière. Oh, c'est bien, reprit-il après avoir savouré sa prise de tabac avec délice. Ça me remet. Allons, oh, je suis pas mort, quoique je souffre comme un possédé. Il jeta les yeux sur le testament et dit. Ah, vous avez pas oublié le pot de fer et son contenu? Non, certes, répondit M. Taillant. « Vous avez bien fait, » répondit Caloche d'un air profondément ironique, « quoique tout ce que je vous ai dit là-dessus soit un conte pour me moquer de vous. »« J'en étais bien sûr, » dit le meunier d'un air joyeux, « si vous aviez eu cet argent-là, vous l'auriez rendu à qui de droit. Vous avez toujours été un honnête homme, mon oncle, quoique vous m'ayez volé ma jument. » Mais c'était une de vos facéties. Vous l'auriez ramenée. Allons, ne signez pas cette bêtise-là. J'ai pas besoin de vos nippes. Et ça peut faire plaisir à quelques pauvres. Vous avez peut-être d'ailleurs quelques parents à qui je ne veux pas faire tort de vos derniers sous. J'ai pas de parents. Je les ai tous enterrés, Dieu merci, répondit le mendiant. Et quant aux pauvres, oh, je les méprise. Allez, donne-moi la plume ou je te maudis. Allons, allons, amusez-vous, dit le meunier en lui passant la plume. Le mendiant signa, puis repoussant le papier de devant ses yeux avec un mouvement d'horreur. Oh, ôtez-moi ça, dit-il, il me semble que ça me fait mourir. « Faut-il le déchirer ?» dit Grand-Louis, tout prêt à le faire. « Non pas, non pas !» reprit le mendiant avec un dernier effort de volonté. « Mets ça dans ta poche, mon garçon. T'en seras peut-être pas fâché. Ah, savez où est-il le médecin? J'ai besoin de lui pour m'achever plus vite si je dois mourir longtemps comme ça. »« Il va venir, » dit la meunière, « et monsieur le curé avec lui, car je les ai fait demander tous les deux. » Le curé ? Dit Caloche. Pourquoi faire ? Ben, pour vous dire un mot de consolation, mon vieux, vous avez toujours eu de la religion, et votre âme est aussi précieuse que celle d'un autre. Je suis bien sûr que monsieur le curé ne refusera pas de se déranger pour vous porter les sacrements. Non, suis donc là ? Reprit le moribond avec un profond soupir. Allez, on se cap pas de bêtises, et que le curé aille à tous les saints sans diable, quoi qu'il soit un bonhomme après tout. Pas simplement ivrogne, mais je crois pas au curé. J'aime le bon Dieu et non le prêtre. Le bon Dieu m'a donné l'argent, le prêtre me l'aurait fait rendre. Laissez-moi mourir en paix. Mon neveu, tu me promets de faire périr ce patachon de malheur sous le bâton ? Non, mais de le bien rosser. Assez causé, dit le mendiant en étendant sa main livide. J'aurais voulu mourir en causant, mais je peux plus. Oh, je suis pas si malade qu'on croit. Je vais dormir et peut-être que t'hériteras pas de sitôt, mon neveu. Le mendiant se laissa retomber. Et au bout d'un instant, il se fit dans sa poitrine comme un bouillonnement sonore. Il redevint rouge, puis blême, gémit pendant quelques minutes, ouvrit les yeux d'un air effrayé, comme si la mort lui eût apparu sous une forme sensible, et tout à coup, souriant à demi, comme s'il eût repris l'espoir de vivre, il rendit l'esprit. La mort, même du pire des hommes, a toujours en soi quelque chose de mystérieux et de solennel qui frappe de respect et de silence les âmes religieuses. Il y eut un moment de consternation et même de tristesse au moulin lorsque le mendiant Caloche eut expiré. Malgré ses vices et ses ridicules, malgré même cette confession étrange qu'on venait d'entendre, et à laquelle le notaire seul croyait fermement, la meunière et son fils avaient une sorte d'amitié pour ce vieillard, à cause du bien qu'ils s'étaient habitués à lui faire. Car s'il est vrai de dire qu'on déteste les gens en raison des torts qu'on a eus envers eux, la maxime inverse doit être acceptée. La meunière se mit à genoux auprès du lit et pria. Les morts et le meunier prièrent aussi dans leur cœur le dispensateur de toute réparation et de toute miséricorde de ne pas abandonner l'âme immortelle et divine qui avait passé sur la terre sous la forme abjecte de ce misérable. Le notaire seul retourna tranquillement avaler sa tasse de thé après avoir dit avec sang-froid « Ite missa est, dominus vobiscum ». « Grand Louis, dit-il ensuite en appelant dehors, il faut en aller tout de suite à Jeux-les-Bois avant que la nouvelle de ce décès y arrive. Quelques gueux de son espèce pourraient aller bouleverser sa cahute et dénicher l'œuf. »« Quel œuf ? » dit le meunier. « Son cochon, sa souquenille de rechange ? » ?»« Non, mais le pot de fer. »« Rêverie, monsieur Taillant. » « Va toujours voir. Et d'ailleurs, ta jument. »« Ah oui, ma vieille servante, j'oubliais, vous avez raison. Elle vaut bien le voyage à cause de son bon cœur et de notre ancienne amitié. Nous sommes presque du même âge, elle et moi. J'y vais. Pourvu qu'il soit pas encore moqué de moi là-dessus. C'était un vieux railleur. »« Va toujours, te dis-je, pas de paresse. Je crois, moi, à ce pot de fer. » J'y crois dur comme fer, comme on dit chez nous. Mais dites donc, monsieur Taillant, est-ce que ça a quelque valeur, ce chiffon de papier que vous avez barbouillé en vous amusant ? Et c'est en bonne forme, je t'en réponds, et cela te rend peut-être propriétaire de 100 000 francs. Moi ? Mais vous oubliez que si l'histoire est vraie, il y en a une à moitié à madame de Beauchemont et l'autre au Bricolin. Ben, c'est une raison de plus pour courir. Tu as accepté cela dans ton cœur à charge de restitution. Va donc le chercher. Et quand tu auras rendu ce service-là, monsieur Bricolin, c'est bien le diable s'il ne te donne pas sa fille. Sa fille, oh, ce que je songe à sa fille. Ce que sa fille peut songer à moi, dit le meunier en rougissant. Bon, bon, la discrétion est une vertu. Mais moi, je vous ai vu danser ensemble tantôt, et je comprends bien pourquoi le père vous a séparé si brusquement. Monsieur Taillant, ôtez-vous tout ça de l'esprit. Je pars. S'il y a un magot pour tout de bon, qu'en ferai-je ? Faudra-t-il pas faire quelques déclarations à la justice ? À quoi bon ? Les formalités de la justice ont été inventées pour ceux qui n'ont pas de justice dans le cœur. À quoi servirait de déshonorer la mémoire de ce vieux drôle qui a réussi pendant 80 ans à passer pour un honnête homme ? Tu n'as pas besoin non plus qu'on sache que tu n'es pas un voleur. On le sait, le reste. Tu rendras l'argent et tout sera dit. Mais si ce vieux a des parents, il n'en a pas. Et quand il en aurait, veux-tu les faire hériter de ce qui ne leur appartient pas ? Ben, c'est vrai, je suis tout abruti de ce qui vient de se passer. Je vais monter à cheval. Ça ne sera pas commode, hein, de rapporter ce fameux pot de fer qui est si lourd, si lourd. Les chemins sont-ils praticables par là-bas ? Certainement. D'ici, on va à Transeau, et puis au lys Saint-Georges, et puis à Jeux. C'est tout chemin vicinal fraîchement réparé. Oscar, prends ma voiture, grand Louis, et dépêche-toi. Eh bien, et vous ? Je coucherai ici en t'attendant. Vous êtes un brave homme, le diable m'emporte. Et si les lits sont mauvais, vous qui êtes un peu délicat. Tant pis, la nuit est bientôt passée. D'ailleurs, nous ne pouvons pas laisser ta mère en tête à tête avec ce mort, c'est trop triste. Car il faut que tu amènes ton garçon de moulin. Quand on a de l'argent à porter, on n'est pas trop de deux. Tu trouveras des pistolets chargés dans les poches de mon cabriolet. Je voyage jamais sans ça, moi qui ai souvent des valeurs à transporter. Allons en route. Dis à ta mère de me faire encore du thé. Nous causerons le plus tard possible, car ce mort m'ennuie. 5 minutes après, les morts et le meunier étaient par une nuit noire en route pour Jeux-les-Bois. Nous leur donnerons le temps d'y arriver et nous reviendrons voir ce qui se passe à la ferme pendant qu'ils voyagent. Chapitre 34. Désastre. La grand-mère Bricolin s'impatientait fort de ne pas voir arriver le meunier. Elle était loin de penser que son émissaire ne devait jamais revenir toucher le salaire qu'elle lui avait promis, et le lecteur comprendra facilement qu'au moment d'expirer, le mendiant eut oublié de transmettre le message dont on l'avait chargé. À la fin, fatiguée et découragée d'attendre, la mère Bricolin alla retrouver son vieil époux, après s'être assurée que la folle errait encore dans la garenne, absorbée comme à l'ordinaire dans ses méditations, et ne faisant plus retentir d'aucune plainte sinistre les tranquilles échos de la vallée. Il était environ minuit. Quelques voix mal assurées détonnaient encore au soir tir des cabarets, et les chiens de la ferme, comme s'ils eussent reconnu des voix amies, ne daignaient pas aboyer. Monsieur Bricolin, poussé par sa femme qui voulait que le sous-saint privé passait avec Marcel, reçu d'exécution à l'instant même, avait, non sans souffrance et sans terreur, remis à la dame vendresse le portefeuille qui contenait 250 000 francs. Marcel reçut avec peu d'émotion ce vénérable portefeuille. Il était si malpropre qu'elle le prit du bout de ses doigts. Lasse de s'occuper d'une affaire où la cupidité d'autrui l'avait frappé de dégoût, elle le jeta dans un coin du secrétaire de Rose. Elle avait accepté ce paiement si prompt par la même raison qui avait décidé l'acquéreur à le faire, afin de l'engager et d'assurer le sort de la jeune fille
en l'empêchant qu'on ne vînt à se rétracter. Elle recommanda à Fanchon, à quelque heure que grand Louis se présenterait, de l'introduire dans la cuisine et de venir l'appeler elle-même. Puis elle se jeta, tout habillée sur son lit, pour se reposer sans dormir, car Rose était toujours très animée et ne pouvait se lasser de la bénir et de lui parler de son bonheur. Cependant, le meunier n'arrivant pas, et les émotions de la journée ayant épuisé les forces de tous, vers 2 heures du matin, toute la ferme dormait profondément. Il faut pourtant excepter une personne de la famille. C'était la folle dont le cerveau était arrivé à un paroxysme de fièvre intolérable. Monsieur et Madame Bricolin avaient longtemps causé dans la cuisine. Le fermier, n'ayant plus rien à craindre et se sentant glacé par toute l'eau qu'il avait bue, avait repris son pichet qu'il remplissait d'heure en heure, en inclinant d'une main mal affermie une énorme cruche placée à côté et remplie d'un vin écumeux d'une couleur violâtre. C'était sa mère goutte, le plus capiteux de sa récolte, boisson détestable mais que le Berrichon préfère à tous les vins du monde. Plusieurs fois, sa femme, voyant que la douceur d'être propriétaire de Blanchemont et les riants projets de son opulence ne pouvaient plus raviver son œil éteint ni dégourdir sa mâchoire, l'avait invité à se mettre au lit. Il avait toujours répondu « Tout à l'heure, j'y vais, j'y suis », mais sans quitter sa chaise. Enfin, après avoir été s'assuré que Rose était endormie ainsi que Marcel, Madame Bricolin, n'en pouvant plus, alla se coucher et s'endormit en appelant vainement son mari qui n'avait pas la force de bouger et qui ne l'entendait plus. Complètement ivre et anéanti comme un homme qui a fait l'effort de se dégriser soudainement, mais qui s'en est bien dédommagé après, le fermier, la main sur son pichet et la tête inclinée sur la table, berçait de ses ronflements énergiques le sommeil accablé de sa femme couchée la porte ouverte dans la pièce voisine. 1 heure s'était à peine écoulée lorsque M. Bricolin se sentit suffoqué et prêt à tomber en défaillance. Il eut beaucoup de peine à se lever. Il lui semblait que l'air manquait à ses poumons, que ses yeux cuisants ne pouvaient plus rien discerner et qu'il était frappé d'apoplexie. La peur de la mort lui rendit la force de se traîner à tâtons jusqu'à la porte qui donnait sur la cour. La chandelle avait fini de se consumer dans son cercle de fer blanc. Ayant réussi à ouvrir et à descendre sans tomber les degrés qui formaient une sorte de perron grossier au Château-Neuf, le fermier promena autour de lui un regard hébété, sans rien comprendre de ce qu'il voyait. Une clarté extraordinaire qui remplissait la cour le força à mettre la main devant son visage, car le passage des ténèbres à cette lueur ardente lui causait de nouveaux vertiges. Enfin, l'air dissipant un peu les fumées du vin, l'espèce d'asphyxie qu'il avait éprouvée fit place à un frisson convulsif, d'abord machinal et tout physique, mais bientôt produit par une terreur inexprimable. 2 grandes gerbes de feu se faisant jour à travers des nuages de fumée sortaient du toit de la grange. Bricolin crut faire un mauvais rêve. Il se frotta les yeux, il se secoua tout le corps, et toujours ces jets de flammes montaient vers le ciel et prenaient avec une effroyable rapidité et un développement immense. Il voulut crier « Au feu !» mais sa langue était paralysée et son gosier inerte. Il essaya de retourner vers la maison dont il s'était éloigné de quelques pas sans savoir où il allait. Il vit sur sa droite des torrents de flammes sortir des étables. Sur sa gauche, une autre gerbe de feu couronnait le retour du vieux château, et devant lui, sa propre maison illuminée à l'intérieur d'une clarté fantastique, et la porte qu'il avait laissée ouverte derrière lui, vomissant des tourbillons noirs comme la bouche d'une forge. Tous les bâtiments de Blanchemont étaient la proie d'un incendie magnifiquement disposé. Le feu avait été mis en plus de 12 endroits différents. Et ce qu'il y avait de plus sinistre dans le premier acte de cette scène étrange, c'est qu'un silence de mort planait sur tout cela. Bricolin, privé de force et de volonté, contemplait, dans une effroyable solitude, un désastre dont personne ne s'apercevait encore. Tous les habitants du Château-Neuf et de la ferme avaient passé du sommeil produit par la fatigue ou l'ivresse à l'asphyxie produite par la fumée. Les craquements de l'incendie commençaient seuls à se faire entendre et les tuiles à tomber avec un bruit sec sur le pavé. Pas un cri, pas une plainte ne répondait à ces avertissements sinistres. Il semblait que l'incendie n'eût plus à dévorer que des bâtiments déserts ou des cadavres. Monsieur Bricolin se tordit les mains et resta muet et immobile, comme si, accablé par le cauchemar, il eût fait de vains efforts intérieurs pour se réveiller. Enfin, un cri perçant s'éleva, un seul cri de femme, et Bricolin, comme délivré du charme qui pesait sur lui, répondit par un hurlement sauvage à cet appel de la voix humaine. Marcel s'était aperçu la première du danger. Elle s'élança dehors, portant son fils dans ses bras. Sans voir Bricolin ni le reste de l'incendie, elle déposa l'enfant sur un tas de foin au milieu de la cour, en lui disant d'une voix forte « Reste là, n'aie pas peur !» Elle rentra précipitamment dans la maison, malgré la fumée suffocante qui la remplissait, et courut au lit de Rose, qui était resté comme paralysé, incapable de la suivre. Alors, avec la force d'un homme, la petite esvelte blonde, exaltée par son courage, prit sa jeune amie dans ses bras et porta héroïquement auprès de son fils un corps beaucoup plus lourd et plus grand que le sien propre. À la vue de sa fille, Bricolin, qui n'avait d'abord songé qu'à sa récolte et à son bétail, et qui avait couru du côté des granges, se rappela qu'il avait une famille, et, dégrisé pour la seconde fois, encore plus radicalement que la première, il vola au secours de sa mère et de sa femme. Heureusement, le feu n'avait pris partout que par les combles, et le rez-de-chaussée, habité par les Bricolins, était encore intact, à l'exception du pavillon de Rose, qui, étant fort bas et au voisinage d'un amas de fagots secs, brûlait rapidement. Madame Bricolin, réveillée en sursaut, retrouva tout à coup sa force physique et sa présence d'esprit. Aidée de son mari et de Marcel, elle transporta dehors le vieux Bricolin, qui se croyait au milieu des chauffeurs et criait de toute sa force « Ne plus rien, me tuez pas !» « Ne brûlez pas, je vous donnerai tout !» La petite Fanchon aidait résolument la mère Bricolin, qui bientôt put aider aux autres. On réussit à réveiller les métayers et leurs valets, dont aucun ne périt. Mais tout cela prit un temps considérable, et quand on put recevoir les secours du village, quand on put organiser une chaîne, il était trop tard. L'eau semblait ranimer l'intensité du feu en soulevant et en faisant voler au loin des masses enflammées. Les énormes amas de céréales et de fourrage, dont regorgeaient les bâtiments d'exploitation, flambaient avec la rapidité de la pensée. Les charpentes centenaires des vieux bâtiments semblaient ne demander qu'à brûler. Presque tout le gros bétail s'obstina à ne pas sortir et fut étouffé ou brûlé. On ne préserva que le corps du Château-Neuf, dont les tuiles s'effondrèrent et dont la charpente neuve resta découverte, réduite en charbon et dressant sa carcasse noire sur les murailles encore blanches du logis. les pompes arrivèrent aux inutiles et tardives ressources dans les campagnes, instruments de secours souvent mal dirigés, mal organisés, et dont les tuyaux crèvent au premier effort, faute d'entretien ou de service. Cependant, les pompiers et les habitants du bourg réussirent à faire la part du feu et à préserver l'habitation et le mobilier des bricolins. Mais cette part du feu fut immense, complète. Tout le pavillon qu'habitaient Rose et Marcel, tous les bâtiments d'exploitation, tout le bétail, tout le mobilier aratoire y passèrent. On ne s'occupa pas du vieux château, dont la toiture brûla, mais dont les fortes murailles nues se défendirent d'elles-mêmes. Une seule des tours, cédant à la chaleur, se lézarda de haut en bas. Le lierre immense qui embrassait les autres les préserva d'une dernière ruine. Le crépuscule commençait à blanchir lorsque le meunier et les Nords sortirent de la misérable cabane du mendiant. Les morts portaient dans ses mains le pot de fer et Grand Louis traînait par la bride sa chère Sophie qu'il avait salué de son approche d'un hennissement amical.
J'ai lu Don Quichotte, disait-il, et je me trouve maintenant comme Sancho recouvrant son âne. Peu s'en faut qu'à son exemple, je l'embrasse ma vieille Sophie, et que je lui tienne de beaux discours.
Grand Louis, dit les morts, si vous pouvez résister à cette tentation, n'avez-vous pas celle de regarder si ce pot de fer contient de l'or ou des cailloux?
Bon, je vais soulever le couvercle, dit le meunier, ça brille là-dedans. Mais je suis fort pressé de déguerpir avant le jour, avant que les habitants de ce désert, s'il y en a, observent mes mouvements et me prennent pour un voleur. Je suis tremblant d'émotion et de plaisir, comme un homme qui mène à bien les affaires d'autrui. Mais j'ai pourtant aussi le sang-froid d'un homme qui n'hérite pas pour son compte. Filons, filons, monsieur Henri. Avez-vous remis ma pioche dans la voiture? Attendez que je donne un dernier coup d'œil là-dedans. Le trou est bien bouché, il paraît plus en route. Allez, nous nous reposerons dans quelques taillis si nos maîtres refusent le service.
Le cheval du notaire ayant fait 3 mortelles lieues de pays au grand trot et souvent au galop, dans les chemins montueux et pénibles, se trouva en effet tellement fatigué au retour que nos voyageurs, arrivés à la hauteur du lys Saint-Georges, se firent obligés de le laisser souffler. Sophie, qu'ils avaient attachée derrière le cabriolet et qui n'était pas habituée à marcher si follement, était couverte de sueur. Le cœur du meunier s'en émut.
« Il faut de l'humanité avec les bêtes, dit-il. » Et puis je veux pas que pour sa probité et sa sagacité dans cette affaire, notre bon notaire perde un bon cheval. Quant à Sophie, il n'y a pas de pot de fer qui tienne. Cette vieille servante ne doit pas faire l'office du pot de terre. Ah, voilà un joli bagage bien ombragé, où pas une bête ni un homme ne remue. Entrons-y. Je suis bien sûr qu'il y a une sacoche d'avoine dans le coffre du cabriolet, car M. Taillant pense à tout, et n'est pas homme à s'embarquer une seule fois sans biscuit. Ben, nous respirons là un quart d'heure, et nous serons tous un peu plus frais pour repartir. Malheureusement, en donnant la clé des champs au cochon de mon oncle, on héritera qui voudra, j'ai oublié de lui voler quelqu'une de ses croûtes de pain. Je me sens l'estomac si creux que je partagerais volontiers la voix de Sophie, si je craignais de lui faire tort. Il me semble que je commence guère bien mon rôle d'héritier de l'avare. Je meurs de faim à côté de mon trésor. En babillant ainsi, suivant son habitude, le meunier débrida les chevaux et leur servit à déjeuner. À celui du notaire dans le sac à l'avoine, à Sophie dans son long bonnet de coton bleu, qui lui arracha autour du nez très facétieusement. C'est singulier, comme je me sens le cœur léger à présent,
dit-il en se tapissant sous les buissons et en découvrant le pot de fer. « Savez-vous, monsieur Lénoir, que mon bonheur est là-dedans, si les louis ne sont pas seulement à la surface et si le fond n'est pas rempli de gros sous ?» J'ai peur, c'est trop lourd pour n'être que de l'or. Ben, ça, aidez-moi à compter tout ça. Le compte fut bientôt fait. Les pièces d'or en vieille monnaie étaient roulées par somme de 1 000 francs dans de sales chiffons de papier. En les ouvrant, Lénore et le meunier virent les marques que le mendiant leur avait indiquées. La fortune du père Bricolin portait une croix sur chaque louis, le dépôt du seigneur de Blanchemont, une simple barre. Au fond, il y avait environ 3 000 francs en argent, en pièces de toute espèce, et même une poignée de gros sous, la dernière qu'eût économisé le mendiant. « Ce restant-là, dit le meunier en le rejetant au fond du pot de fer, c'est la fortune de mon oncle. » C'est l'héritage de votre serviteur, c'est le dernier de la veuve que ce vieux Grimaud ne se faisait pas faute de recueillir et qui retournera à la veuve et à l'orphelin, je vous en réponds. Qui sait si c'est pas aussi le produit du vol? À voir comment mon oncle, que Dieu fasse paix à son âme, m'avait escamoté sa fille, oh, j'ai pas trop de confiance dans la pureté de son lait. Tiens, ça me fera plaisir de faire l'aumône. Moi qui suis si souvent privé de cette douceur-là, je vais prendre un plaisir de prince. Savez-vous qu'avec 3 000 francs dans ce pays-ci, on peut sauver et assurer l'existence de 3 familles? Mais vous ne pensez pas au reste du dépôt, grand Louis. Songez donc qu'avec cette grosse somme dont Madame Blanchemont n'a vraiment pas besoin pour elle-même, vous allez la mettre aussi à même de faire bien les heureux. Oh, je m'en rapporte à elle pour le faire rouler vite sur cette table-là. Mais il y a à côté quelque chose qui me flatte. C'est ce petit magot que M. Bricolin va recevoir de ma main avec tant de plaisir. Ha ha, ça n'aura pas un emploi très chrétien chez lui. Mais ça raccommodera beaucoup mes affaires, qui étaient bien grattées hier au soir. C'est-à-dire, mon cher Louis, que vous pouvez prétendre maintenant à la main de Rose. Oh, croyez pas cela. Si les 50 000 francs m'appartenaient, ça pourrait s'arranger à la rigueur. Mais le Bricolin sait mieux compter que vous. Il dira, voilà 5 000 pistoles qui sont à moi et que grand Louis me rapporte, et il fait que son devoir. Ce qui est à moi n'est pas à lui, donc j'ai 50 000 francs de plus dans ma poche, et il reste avec son moulin gros aux gens comme devant. Et il ne sera pas émerveillé, touché d'une probité dont il ne serait sans doute pas capable? Émerveillé, oui. Oh, touché, non. Mais il se dira, ce garçon peut m'être utile. Les honnêtes gens sont très nécessaires à ceux qui ne le sont pas. Il me pardonnera mes péchés. Il me rendra sa pratique à laquelle je tiens beaucoup, puisqu'elle me met à même de voir Rose et de lui parler tous les jours. Vous voyez donc que, sans me faire d'illusions, j'ai sujet d'être content. Hier soir, quand je dansais avec Rose, quand elle avait l'air de m'aimer, je me sentais si fier, si heureux. Eh bien, je retrouve mon bonheur d'hier soir, sans m'inquiéter de mon lendemain. C'est beaucoup. Bravo, oncle Caloche, va, tu ne te doutais pas de ce qu'il y avait pour moi de consolation dans ton pot de fer. Tu croyais me faire riche, et tu me rends heureux. Mais, mon cher Louis, puisque vous rapportez à Marcel une somme égale à celle qu'elle voulait sacrifier pour vous, vous pouvez bien à présent accepter les concessions qu'elle offrait de faire à M. Bricolin. Moi, jamais, ne parlons pas de ça. Ça me blesse. Je ne serai plus banni de la ferme, c'est tout ce qu'il me faut. Voyez comme ce trésor est joli, comme il brille, comme il y aurait là-dedans des peines soulagées, des inquiétudes apaisées. C'est pourtant beau, l'argent, monsieur les morts, convenez-en. Là, dans le creux de ma main, il y a la vie de 5 ou 6 pauvres enfants. Ami, je n'y vois que ce qu'il y a, en effet. Les larmes, les cris, les tortures du vieux bricolin, l'avarice du mendiant, sa vie honteuse et stupide, consumée tout entière dans la tremblante contemplation de son vol. Vous avez raison, dit le meunier, en rejetant avec effroi la poignée d'or dans le pot de fer. Que de crimes de lâcheté, de soucis, de mensonges, de peur et de souffrance là-dedans. Vous avez raison, c'est vilain l'argent. Nous-mêmes qui sommes là à le regarder, à le contempler en cachette, nous voilà comme 2 brigands armés de pistolets et craignant d'en être surpris par d'autres bandits ou appréhendés au collet par les gendarmes. « Allons, cache-toi, maudit » s'écria-t-il en replaçant le couvercle. « Et nous partons, ami. Vive la joie, cela n'est pas à nous. »